Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 30 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 108 000 $, correction qui est en cours et avec, on va le voir dans un instant, un support des plus importants, 108, 109. C'est également ce qu'on vous avait donné du côté de l'analyse on-chain pour ne pas justement aller en direction des 95 000 $, 98 000 $. Donc on va dire à plus ou moins 5 000 autour des 100 000. Donc on n'en est plus si loin si ce mois de septembre s'ouvrait sur une saisonnalité un peu disparate comme on a pu le voir par le passé. Ether qui suit également 4 400 $, on est légèrement en dessous, on a ce top 10 qui est à moins 2,50 en hebdo et entre moins 5 et moins 8 voire moins 10 pour Cardano et Chainlink en hebdomadaire. Le crow de crypto.com en positif suite à l'annonce bien entendu de la trésorerie liée à Donald Trump, donc 30 centimes 10 milliards de cap, il s'est hissé très rapidement dans le top 15 et en progression de 100% sur la semaine. Et ensuite quand on remonte le top 50, très peu de performances positives et en journalier et en hebdo, on a 7% pour OKB, 2% pour Pi Network et on clôture le top 50 avec Render, Worldcoin, le token de KuCoin, Sei qui sont à 1,75 et 1,8 milliards de capitalisation. Donc on voit que malgré tout ces dernières semaines, ce top 50, certes s'il se maintient autour de 1,8 milliards, ne bouge pas trop, mais on n'a pas d'afflux de capitaux qui viennent sur les altcoins d'un point de vue totalement élargi. Je passe directement à l'analyse technique puisqu'il n'y a pas eu de grandes informations ces derniers jours et surtout j'ai été pas mal malade de mon côté, donc les aficionados des fruits de mer, des viandes en tartare et de tout ce qui s'ensuit comprendront ce que je viens de me traverser, c'était pas super joyeux. En attendant, 3720 milliards pour le crypto total après avoir topé au-dessus des 4000-4160 pour le moment en tout cas. On a malgré tout ce sentiment, et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant du côté du Bitcoin, que chaque rebond, chaque travail sur ce cycle est de moins en moins important que le précédent et que c'est un peu comme une balle ou un ricochet qu'on lance et petit à petit le rebond suivant est moins important que le précédent. Donc c'est vrai que la question là pour septembre, c'est si jamais on entre en correction, à partir de quel moment on commence à s'inquiéter pour le potentiel début du bear market? Est-ce que ça sera qu'une énième correction alors qu'on rentre pile poil dans les clous entre mi-septembre et mi-octobre au maximum début novembre de la saisonnalité du cycle de 4 ans, si tant est que le cycle bien entendu existe toujours, puisque là à ce jour c'est quelque chose qu'on peut mesurer depuis 15 ans, mais je suis pas sûr que dans les 5 ans qui viennent ce sera toujours ce qui régira pleinement ce fameux cycle de 4 ans basé sur le halving, puisque c'est pas basé non plus sur rien. Donc là en l'état on pourrait revenir autour de la moyenne mobile 20, si ça se gâtait ça correspondrait plus ou moins à la zone qu'on a vue tout à l'heure en intro autour de 95 à 98 000 du côté de Bitcoin, sachant que déjà là si on perd les 108, on risque vite justement d'y descendre à 105 puisqu'on est sur une zone malgré tout très importante. Et ce qui pour l'instant me met un petit peu le doute, c'est qu'on a malgré tout aussi cette Bitcoin dominance qui est autour de 58% par rapport à BTC. Et donc c'est là où théoriquement lui il va devoir jouer sa propre partition et se dire ok, j'ai lâché un petit peu du mou du côté des alts. Si vraiment on a un Bitcoin qui vient chercher plus haut que les quasi 125 000 qu'il a fait sur la mèche autour de mi-août 2025, il va falloir vraiment avoir un petit travail propre en septembre entre aller les 105 maximum, les 98 et venir par la suite construire ici pour repartir péter très fort les 125, 130, 140, 150 blablabla autour d'octobre. Donc en gros, le timing est très court. On n'a pas beaucoup de temps pour contracter le prix et on a un prix qui, pour l'instant, là, est en train de nous valider potentiellement un double top à 124-125. Moyenne mobile 20, qu'on est d'ores et déjà en train de travailler autour de 108. Moyenne mobile 50, et avant ça, on a le support des 98 à 95. Donc tout ce qui se passe, on va dire, en mèche à 95-98, c'est pas remis en question de la fin de ce bull run. Tout ce qui nous fait passer durablement en hebdo sous la moyenne mobile 50 hebdo, là ça commencera à sentir le bear market. Donc si jamais les choses se gâtent dans tous les cas, c'est une possibilité et c'est là où on va me dire ouais mais t'es trop pessimiste etc. Dans tous les cas le raisonnement il n'a pas changé à partir du moment où on est venu à 125, quand bien même votre objectif final c'était 130, 140, 150, vous imaginez bien que si vous êtes rentré à 15, 20, 30, ça devenait un moment opportun pour commencer à prendre des petits profits. Après Après, si vous êtes là pour 10 ans, bien entendu que probablement le moins 50 ou je ne sais combien qu'on se prendra lors de ce futur bear market ne sera pas une énorme préoccupation de votre côté, tant la hausse future au travers du temps de Bitcoin pourrait là aussi vous apporter, si on se fie aux dernières statistiques, une performance annualisée qui, sur une dizaine d'années, devrait se tenir largement au-dessus du double chiffre, donc au moins 10% par an, et je suppose plus que ça, peut-être 20-30% par an pour les 5 prochaines années, les 5 années d'après. Voilà, c'est difficile quand même pour un marché qui est aussi jeune de se projeter à aussi loin, mais je suppose que le rendement de Bitcoin pour les 5 prochaines années, quand bien même il baisserait de 50% entre-temps sur un bear market entre 2026 et 2027, devrait être approximativement de l'ordre de 20-30% par an sur les 5 prochaines années. Donc comme on le disait à l'instant, si jamais ça se gâte, on a l'ultime support qui pour moi voudrait pas forcément dire bear market immédiat, mais le simple fait d'y retourner, ça voudrait dire que bah, là, la structure s'est complètement dégradée, c'est un peu finito pipo. C'est la moyenne mobile 100 qui est à ce jour autour de 75 000 et ça nous arrange puisque c'est le support d'avril 2025. Donc vous pouvez considérer que tout ce qui se passera sous 75 000 sera bien entendu la porte d'entrée opportune pour par la suite faire nos petites courses lors del famoso bear market avec une moyenne mobile 200 à ce jour qui est autour de 52 000 dollars. Les alts, c'est intéressant puisqu'ils ont hésité sur les 70 de RSI, hésité sur le point haut de décembre 2024 autour de 1660 à 1700 milliards, sachant que l'ATH de 2021 était à 1710 et c'est totalement cumulatif au fait que Ether lui-même est hésité bien entendu autour de 4800 et des brouettes, 4850. Donc pour l'instant, c'est un peu normal que Ether ait besoin de digérer, notamment au vu de la verticalité du mouvement qui depuis avril nous a fait passer de 1380 dollars à 4900 et des brouettes, donc 256% pour Ether. Le best-of là en l'état, si Bitcoin ne vient pas nous nuire ou gâcher un petit peu prématurément la fête, ça serait de se construire en effet entre 4000, allez maximum 3009 et cette zone qu'il vient de toucher, donc autour de 4900 dollars. J'espère vivement bien entendu que ce cycle ne s'arrêtera pas là, puisque si on n'a pas eu entre temps notre fameuse alt season, je ne sais pas malheureusement qui il restera au cycle d'après. Indice et commodité, le gold qui, après avoir travaillé la moyenne mobile 20, a l'air de vouloir recoller au haut du range à 3450 dollars l'once. On va voir si ça repart de nouveau. Il continue de construire très très haut en RSI. Le taux à 20 ans qui reste très haut également, 4,9% à plus 1%. Alors ça, c'est assez extraordinaire puisque normalement, dans un monde justement où on a une annonce de baisse de taux potentiel et si le marché était en train de pricer réellement ça, on aurait déjà les taux, que ce soit les taux courts, les taux longs, qui seraient en train de baisser. Or là, si le taux court, oui, est légèrement en train de baisser, 0,33, on a plutôt une stabilisation au niveau des taux longs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous prêtez en obligataire à l'État des États-Unis autour du 20 ans, pendant 20 ans, on va vous verser un coupon deux fois par an ou une fois par an, selon ce que vous prenez, de 4,9%. Alors le 20 ans, ça fait un peu long, mais même le 10 ans, 4,23. Imaginez que vous vous dites ok, les 10 prochaines années ne seront pas à l'image, en tout cas pour l'économie générale, contrairement à la tech, et là encore que la bulle IA peut se discuter actuellement, mais admettons que vous ne soyez pas très optimiste pour les 10 prochaines années comparativement à ce qui vient de se passer sur ces 10 dernières, et que vous vous disiez ok, j'ai 500 000 euros, j'accepte de prendre pendant 10 ans mon 4,23%. Alors très certainement que vous allez sous-performer les indices, mais dans une optique justement de si l'économie venait à se dégrader, eh bien c'est sûr que pour l'instant, tant qu'on a des taux longs à 3,7 pour le 5 ans, 4,23 pour le 10 et quasi 5% pour le 20 ans, pourquoi les opérateurs viendraient s'embêter à aller prendre plus de risques et sur le marché actions et sur le marché des crypto-monnaies? Et ça, pour l'instant, c'est un peu bizarre parce que normalement, qui dit baisse de taux, après c'est peut-être un lag aussi, ça se fait en deux temps, et bien on dit également baisse de ce côté-là, des taux que ça soit court et long terme, mais pour l'instant, ça n'est pas du tout ce qui a l'air d'être pricé par le marché. Donc j'espère vivement pour nous que ce que pense le marché, ça n'est pas que on est en train de tout pousser en mode le tout pour le tout, tout en ayant en tête un scénario inverse en se disant disant « Ok, peut-être que Jérôme Powell ne va pas baisser les taux ». Et à ceci, il faudra surveiller également le deuxième indicateur qui a son importance pour l'économie générale et mondiale, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont cotées en dollars aujourd'hui, c'est le dollar américain, le DXY, qui est autour de 98 points. On est peut-être en train de faire l'esquisse de ce qui pourrait être un point bas, on est au contact de la moyenne mobile 20, et un simple retour à la médiane et au support résistance, appelons-le comme on veut, cumulé à la moyenne mobile 200, c'est un retour à 103 points qui nous ferait récupérer par rapport à la zone où on se trouve actuellement. Et là, vraiment, je prends que la médiane, 5%. Si on revient sur le haut du range du début de l'ère Trump, c'est 12,6. Et si on revient sous Biden, on est à plus 17% pour le dollar. Donc, ne serait-ce que 5% à prendre sur l'échange dollar-euro lorsque, en plus, on risque d'être en bear market en 2026-2027, ça n'est pas quelque chose qui est négligeable. On clôturera cette émission, pas forcément sur les altcoins, puisque vous vous doutez bien que ces derniers jours, j'étais plus sur la cuvette que devant mes graphiques. C'est très charmant dit comme ça, mais je pense que ça vous fera rire. Et du coup, on a le luxe potentiellement qui est en train de se réveiller du côté de la bourse française, le CAC 40, avec une rentrée là aussi qui risque d'être des plus incertaines, mais probablement que ça a déjà été pricé. Bref, le luxe qui était dans en ce moment en bear market d'anthologie, et on a eu donc par exemple Kering qui avait baissé de 81% et qui est en train de nous faire la remontada express. C'est potentiellement le début de quelque chose également pour LVMH, et on a eu une très belle trend également à court terme du côté de Pernod Ricard, donc qui est en train potentiellement de nous faire son petit bottom sur la zone long terme des 86 à 100 euros. Donc à voir tout ce qui est lié de près ou de loin à l'industrie du luxe. Il y a probablement une carte à jouer, et quand on voit ces super boîtes qui quand même avaient pris des moins 50, moins 60, moins 80, et que plus personne n'en parle sur les réseaux en nous disant que ça y est, c'est le moment opportun pour acheter LVMH quand on était à 900 balles. Je me suis fait avoir le premier, hein, ici, j'ai commencé réellement à m'intéresser à LVMH, on devait être entre 700 et 900 balles en plein haut de ce top de distribution. J'avais pas vraiment regardé les graphiques. Il y a eu énormément d'euphorie autour du titre depuis 2020, où on est quand même passé de 280 à 900 balles, donc un x3, la main dans le slip, ni vu ni connu, et par la suite on est revenu à un support très long terme, 440 euros, 445, qu'on avait travaillé justement en janvier 2020. Donc on voit que peu importe où l'on regarde, les marchés nous servent exactement, systématiquement, la même sauce, la même salade, la même musique. Et c'est pour ça que espérer aujourd'hui qu'il n'y ait pas de bear market sur le marché crypto serait une hérésie, tout comme espérer aujourd'hui que Nvidia va continuer de porter à bout de bras pour toujours ad vitam et la bulle IA et la bulle des États-Unis sur la tech. Ça ne tiendra pas indéfiniment, et petit à petit, on le voit au niveau du RSI, on a des points là aussi qui sont en train de faire un peu comme une balle de ping-pong qui a du mal. Le cours continue de monter, porté par un consensus et une certaine frénésie, mais au bout d'un moment, on va revenir à une certaine réalité, à une certaine normalité. Et si la dernière fois, par exemple, en avril, on était passé de 150 à 87 dollars, je crois, moins 43% pour Nvidia. Le jour où vraiment ça va dérouler, on a un top actuel proche des 200, ça sera moyenne mobile 200 à minima, ça sera moins 63%, voire même peut-être un retour à 45-46 dollars, moins 75, ou le support long terme, moins 83%, autour de 32 dollars. Et c'est pas pour autant que Nvidia sera morte, que Nvidia sera une mauvaise société, ou que, comme elle l'a fait ici en 2022, lorsqu'elle a perdu moins 69%, elle devient moins désirable. C'est juste qu'il y aura un moment où les gens vont prendre peur, la moindre annonce de résultat qui sera un petit peu moins bien. Il suffira d'entraîner un peu cette spirale infernale, d'avoir 1, 2, 3 trimestres qui sont pas dans les clous, voire qui petit à petit ne vont pas justement dans le sens du consensus. Et ensuite, c'est les spéculateurs qui font le reste du boulot, avec des excès qui, pour les spéculateurs avisés, ont tendance à nourrir nos portefeuilles au long terme, et notamment pour ceux qui ont fait un petit peu de cash de côté. Une poche qui est redoutable pour justement faire nos petites emplettes quand le marché vient à passer dans le rouge, et c'est quelque chose qu'il faudra donc observer ces prochaines années, puisque je pense résolument que en l'état, il y a quand même pas mal de chances que oui, 125 000 en tout cas pour Bitcoin, jusqu'ici, ait été le point haut de ce cycle. J'espère vivement que si Bitcoin arrive à se consolider entre 100 et 110, 120 Ether et la possibilité autour de l'automne de faire une seconde poussée slash micro-alt season avec des rendements qui seront assez faiblards, quelque chose entre, on va dire, décembre 2024 et voilà, peut-être même la moitié de décembre 2024. J'en attends plus beaucoup là, pour le coup du marché crypto. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu pessimiste, mais quand on regarde les choses dans leur ensemble, je vous assure que le fait aussi de voir aujourd'hui autant de gens qui sont dans ce modèle encore d'espoir quant à leur token de 2021, le fait que quand on regarde factuellement, et c'est un peu dramatique, on a une bonne majorité des altcoins qui sont moins hauts qu'en décembre 2024 et pire que mars 2024, ça voudrait dire que la personne au niveau du coût opportunité qui a cherché à s'exposer aux altcoins depuis un an et demi s'est fait mal. Comparativement à si elle était restée que sur Bitcoin. Et je pense que c'est ce qu'on retiendra de ce cycle. C'est un cycle qui n'a pas été propice aux alts, pas propice à la prise de risque. Je vous l'ai démontré tout à l'heure pourquoi, au niveau des taux, on a du 4 à 5% sur les taux. Donc ne comptez pas avoir des gens qui viennent mettre leur argent comme ça en mode casino du côté du marché crypto. Et petit à petit, on a un marché qui s'est professionnalisé au détriment, en effet, des particuliers qui, sur ce cycle, auront peiné à trouver des narratifs encourageant, enthousiasmant. On a eu les agents IA, on a eu les Memcoin, on a eu Tao BitTensor avec l'IA pure et dure et quelques autres, Fetch AI, mais ça a été des feux de paille, ça n'a pas duré. Et derrière, aujourd'hui, on peine à retrouver véritablement des narratifs qui pourraient plaire au grand public et qui pourraient réalimenter dans de grandes proportions cette dynamique complètement folle qu'on avait justement entre 2020 et 2021. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve lundi, j'espère un peu plus en forme, et continuez à la fois d'être prudent, et je vous ai toujours pas oublié pour faire une émission autour des alts, mais on a tellement de formats qui sont en train de s'enchaîner en ce moment que d'ailleurs j'allais oublier de répondre à la question du jour. Donc sans transition, j'y réponds directement puisque vous êtes de plus en plus à demander justement sur ces vidéos où il y a de nouveaux intervenants où sont passés Marc et Manu. Et donc sans pouvoir trop rentrer dans les détails, premièrement je dirais que pour certains d'entre vous, je peux comprendre que c'est juste de s'inquiéter des personnes. Pour d'autres, ça semble un peu de la curiosité mal placée, voire même d'autres qui sous-entendraient « Oula, qu'est-ce qui s'est passé entre CM, Marc et Manu ?» À ceci, je répondrai qu'il y a des personnes qui ont des chemins de vie différents. Manu, il a lancé un projet, ça n'a pas forcément fonctionné. De notre côté, on a lancé l'Oracle, ça n'a pas fonctionné, donc il prend un petit peu de recul. Et pour Marc, eh bien, il s'est concentré à 100% sur AAV. Vous allez le retrouver très prochainement et bien plus tôt que vous ne le pensez pour des analyses de wallet et de patrimoine en compagnie également d'un second intervenant. Donc on sera à trois pour ces analyses, moi y compris. Et donc vous allez retrouver Marc. Manu, bien entendu, j'espère, reviendra sur la chaîne. Mais pour l'instant, il a décidé de prendre du recul vis-à-vis du marché crypto. Donc je peux comprendre, ça part d'une bonne intention, mais on n'est pas sur Closer, on n'est pas tout le temps en train de devoir tout dire, tout montrer, ou voilà, je comprends que vous vouliez prendre des nouvelles, ça part d'une bonne intention malgré tout. Et il n'y a pas énormément plus à raconter autour de ceci, mis à part que, bah, comme vous l'avez constaté, les nouveaux intervenants sont de qualité, ça a l'air de vous plaire. J'espère bien entendu que les intervenants historiques pourront à minima, une fois par mois, venir parler, et notamment on essaiera de relancer les lives du lundi, bien entendu, c'est pas un format qui est amené à 100% disparaître. C'est juste que là, cet été, on n'en ressentait pas forcément le besoin, et même à peu près depuis 6 mois. Donc j'espère que j'aurai épanché votre curiosité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à leur donner de la force. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, Manu Redpills du côté de Twitter, Lemiscat pour Marc, et voilà, vous pouvez les contacter directement si vous avez des requêtes ou si vous voulez leur dire qu'il faut qu'ils reviennent. Partagez le micro chez CM. Dans tous les cas, nous on est toujours là, on continue d'avancer, et je pense que c'est à l'image de la vie qu'on traverse, que ça soit en entreprise ou que ça soit avec ses proches ou avec des amis, que petit à petit, eh bien parfois il y en a qui prennent des directions différentes. Donc ce coup-ci on est bon, on clôture pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une rentrée qui s'annonce tonitruante, en espérant que septembre ne soit pas déjà le premier mois qui viendra nous mettre la tête sous l'eau pour les marchés. Très bon week-end et à lundi, ciao ciao.